Vous écoutez RTL.
Et maintenant, on file à Chaumont-sur-Loire. Retrouvez nos amis Sidonie Bonnec et Thomas Hugues. Voilà, je vous laisse la parole, monsieur Lame.
Merci Vincent, on va vous faire visiter ces jardins de Chaumont-sur-Loire qui viennent d'être créés, qui sont ouverts au public pour 6 mois. Vous verrez, c'est extraordinaire. Et puis on va en profiter pour chasser les idées reçues à propos d'habitants qu'on a rencontrés ce matin en se baladant. Les insectes, les araignées, les fourmis, les abeilles, les coléoptères, les coccinelles, on en a croisé... quelques-uns et on va vous raconter leur histoire. Ils sont tous adorables, vous verrez.
Et tout de suite dans la curiosité, on découvre les secrets des châteaux de la Loire.
La curiosité est un vilain défaut.
Le château de Chaumont-sur-Loire domine majestueusement la Loire.
RTL.
Et peut-être bien différent de celui que connurent les habitants du Moyen-Âge. Le premier château fut en effet entièrement brûlé et détruit par Louis XI. Il ne sera reconstruit qu'à la fin du XVe siècle.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
L'allure générale du château rappelle celle d'une austère forteresse qui contraste avec la tranquillité qui règne dans le parc, ainsi qu'avec la sérénité et l'harmonie des jardins.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL. Bonjour à tous, bienvenue les curieux, vous aimez vous balader, vous aimez la nature, vous aimez les belles histoires, ben nous aussi. On a posé d'ailleurs notre studio dans le Val-de-Loire, dans ce magnifique domaine de Chaumont-sur-Loire à l'occasion du Festival international des jardins. Et bien sûr, nous sommes deux comme toujours, inséparables. Bonjour Thomas.
Ça va bien Sidonie?
Ça va très bien.
En pleine forme. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est très heureux de vous accueillir ici depuis le Festival international de Chaumont. C'est un site extraordinaire pour toute la famille qui donne envie de flâner, de respirer, dans lequel on va de jardin en œuvre d'art et surtout de surprise en surprise.
Et alors évidemment, avant de vous raconter les plus incroyables secrets des châteaux de la Loire, parce qu'on adore l'histoire dans la curiosité, on vous propose une visite des jardins avec Chantal Colleux-Dumont, qui est la directrice générale du Festival du Domaine et qui nous promène comme ça depuis quelques jours et qui nous ravit. Vous allez bien? Bonjour Chantal.
Très bien, ravie de vous accueillir.
Merci.
Alors ce domaine de Chaumont-sur-Loire, c'est un château, bien sûr, la Loire, des jardins, mais aussi de l'art contemporain, c'est tout ça?
Oui, à Chaumont, on a l'histoire, on a l'art et on a les jardins. Et tout cela se mêle harmonieusement. Nos visiteurs passent du château à ces jardins étonnants que sont les jardins du festival, qui sont des jardins de création sur un thème différent chaque année.
Cette année, c'est la pensée.
Oui, ce sont les jardins de la pensée, parce qu'on a imaginé qu'aujourd'hui, on peut tout à fait... mettre en évidence des jardins qui, selon la tradition, puisque Platon, Épicure ont toujours pensé dans les jardins, mis en valeur les jardins, et on voulait savoir ce que des concepteurs d'aujourd'hui, du monde entier, pouvaient faire avec cette thématique. Et
vous pouvez nous donner un exemple, un de ces jardins qu'on a visité ce matin, par exemple, il y en a un qui est inspiré d'un roman de Houellebecq, la possibilité du Nil. C'est ça, à quoi il ressemble ce jardin?
Alors ce jardin, c'est un miroir d'eau extraordinaire, à l'intérieur duquel se trouve un arbre qui normalement ne devrait pas survivre, mais par la magie de la technique et du créateur de ce jardin, vous avez un érable rouge double qui vous offre un espace de méditation extraordinaire.
Et les pensées s'envolent.
Et les pensées s'envolent. Et on a aussi un très beau jardin bleu. Un jardin qui est inspiré de José-Louis Borges, cette fois, et qui est un labyrinthe bleu dans lequel vous vous promenez avec des structures extraordinaires au pied desquelles sont des plantes uniformément bleues.
La belle nouvelle, Chantal Colleux-Dumont, c'est qu'on vous retrouve en fin d'émission pour d'autres secrets et d'autres découvertes de votre jardin fabuleux. Tout de suite, on accueille notre consultant en histoire, Pierre Baron, pour raconter les secrets des châteaux de la Loire. Vous allez bien, Pierre?
Ça va, ça va.
Avec musique d'époque, hein, Pierre, pour vous accueillir. Quand même,
oui.
C'est pas mal.
C'est parti pour le menuet.
Alors évidemment, tous ceux qui connaissent les châteaux de la Loire savent que ce sont des bijoux. Et pour ceux qui ne les connaissent pas, ça vaut vraiment le coup?
Oh oui, ça vaut le coup, oui. Je dirais que ça tient en un mot. Dépendance. Parce que depuis les rois de France, tout le monde est accro de ces châteaux de la Loire. Vous allez voir, il y a de quoi.
Alors, on parle des châteaux de la Loire. Ça désigne quoi exactement? Quel ensemble de châteaux? Il y en a tant que ça?
Ah, il y en a beaucoup. Les châteaux de la Loire, ça désigne un ensemble de châteaux principalement bâti à la Renaissance ou rénové à la Renaissance.
Donc c'est 15e...
Pour nous, Français, on est un peu en retard sur les Italiens, c'est 15e, 16e.
D'accord.
C'est des châteaux qui peuvent être des châteaux royaux, ça peut être des châteaux qui peuvent appartenir à des proches du roi, à la reine ou des princes de sang.
Ils ont un nom, ces châteaux-là?
Oui, bien sûr, ils sont connus, vous les connaissez tous, à Zellerideau, Chinon, Blois, Angers, pour les châteaux royaux les plus immédiats. Et vous avez dans la troisième catégorie, c'est pas péjoratif, mais les châteaux que j'appellerais seigneuriaux. Les châteaux qui appartiennent, comme Beaugency par exemple, aux cadets des rois de France. Ceux qui sont, pardonnez-moi l'expression, un peu les cocus de l'histoire. Parce qu'ils régneront jamais. Oui. Comme ils sont cadets, c'est l'aîné qui monte sur le trône.
Mais ça fait combien de châteaux, les châteaux de la Loire? C'est dizaines, quelques centaines,
quelques... Ah non, c'est quelques centaines. Quelques centaines, facile.
On est évidemment à Chaumont-sur-Loire dans ce domaine. Et ce très beau château, il a été entre les mains de Catherine de Médicis, qui a dû le céder à sa rivale, la favorite.
Diane de Poitiers.
Pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé?
Parce qu'elle a rongé son frein pendant très longtemps et qu'elle a attendu, patiemment. Et puis lorsque le roi est mort pendant un tournoi, elle a sauté, si j'ose dire, sur l'occasion. Elle a utilisé ce château comme monnaie d'échange pour récupérer Chenonceau. Elle a fait valoir que Chenonceau était un bien inaliénable, qu'il appartenait à la couronne de France. Et donc il y a eu un troc entre la légitime et la non légitime, si vous voulez. Voilà.
Et l'une et l'autre ont laissé, j'imagine, des traces dans ce château de Blois. On va les découvrir avec vous et peut-être aussi raconter une histoire qui a un lien avec l'Amérique. C'est surprenant, ça, vous verrez pourquoi. Restez avec nous sur RTL, toujours en direct de Chaumont-sur-Loire, le Festival international des jardins.
RTL. Pour François 1er, Chambord n'était qu'une vitrine. Il voulait, avec ce château, éblouir ses visiteurs et ainsi asseoir son pouvoir.
La curiosité est un vilain défaut.
Parmi tous les châteaux de la Loire, Chambord est de loin le plus imposant. Une très large façade Renaissance, 282 cheminées et des dizaines de sculptures. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec, l'escalier à double vis. Une illusion d'optique que l'on doit à un architecte facétieux. Il paraîtrait même qu'il s'agirait du plus inventif d'entre eux, un certain Léonard de Vinci. On est bien entre curieux sur RTL.
Chambord, Chenonceau, Azay-le-Rideau, Cheverny, le Clos Lucé et bien sûr Chaumont-sur-Loire. On est au cœur des châteaux de la Loire sur RTL avec le public qui est ici au cœur du festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire. Et nous, on est avec Pierre Baron, notre consultant en histoire, pour raconter l'histoire de ces châteaux de la Loire et notamment de celui de Chaumont. On dit que c'est le plus américain des châteaux de la Loire. Pourquoi ?
Parce qu'en 1750, c'est-à-dire deux siècles après que la reine ait acheté ce domaine, ce château appartenait à un aristocrate qui était extrêmement puissant, extrêmement riche, probablement l'un des hommes les plus riches du royaume. Il s'appelait Jacques Donatien Loré. Alors vous allez me dire, très bien, mais quel lien avec l'Amérique ? Le lien s'appelle Benjamin Franklin, c'est un homme politique américain, très célèbre, imprimeur, philosophe, etc., député. Et une des grandes figures de la lutte d'indépendance des États-Unis. Il est venu ici, il a séjourné au château de Chaumont. Il a même obtenu de son hôte l'envoi d'un navire rempli de munitions et d'armes destinées aux insurgés américains. Et à la mort de Benjamin Franklin, son fils a voulu créer dans l'Ohio une ville, une communauté qu'il s'appellerait Chaumont. Ça n'a pas vu le jour, mais c'est pour montrer à quel point ce château a compté dans la naissance des États-Unis.
Donc ça, c'est le château qu'on peut visiter ici sur le site de Chaumont-sur-Loire.
Il y a aussi la chambre d'ailleurs de Catherine de Médicis qu'on peut visiter et qui a été réaménagée. Mm-hmm. Et là, vous avez envie de nous emmener à Blois, c'est ça ?
Tout près d'ici, à quelques kilomètres d'ici. Et on est toujours dans l'histoire de Catherine de Médicis, Pierre Baron, et dans l'histoire de sa superstition. Pourquoi y a-t-il une histoire de superstition au château de Blois ?
Parce que Catherine de Médicis, elle était incapable de passer une journée sans consulter ses astrologues.
Il n'y avait pas Christinas à l'époque, sur RTL.
Non, était totalement accro aux horoscopes.
Moins précis.
Voilà. Et il fallait qu'elle se débrouille autrement. Donc, elle avait plusieurs mages attitrés, on fréquentait pas mal Nostradamus, mais elle avait surtout un mage personnel qui s'appelait Comte Ruggieri. Il ne s'occupait pas de musique classique, mais d'astre. Hein.
Qu'est-ce qu'il lui annonce un jour ?
Ruggieri lui dit qu'elle allait mourir, tout simplement, près de Saint-Germain. Alors, évidemment, elle avait juste commencé à construire le palais des Tuileries à Paris, et pour elle, ces paroles d'évangile, dès qu'elle entend qu'elle va mourir Saint-Germain, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'en va, elle quitte immédiatement les lieux. Elle part, elle va même fuir Saint-Germain-en-Laye, parce qu'il y a Saint-Germain-en-Laye, de peur d'y mourir. Elle se retrouve ici, au château de Blois, et elle se retrouve très malade un soir. Et il y a un curé, un brave ecclésiastique, qui vient la voir, qui vient à son chevet, et elle lui demande son nom, il lui dit et il lui répond « Madame, je suis l'abbé de Saint-Germain ». Et elle est morte quelques heures après, voyez-vous.
Donc finalement, son mage avait eu raison.
Eh oui, bon horoscope. Des fois, ça arrive. Hein, c'est pas...
Il prévoyait un lieu, il a trouvé un homme.
Il a trouvé un lieu.
On va passer à un autre visionnaire, Pierre Baron. Lui, nettement plus rationnel, c'est Léonard de Vinci. Il nous a laissé une drôle d'énigme avec l'escalier d'un autre château, du château de Chambord. Quelle est cette énigme ?
Bah, c'est une énigme qui est un peu arithmétique. Alors, je vais essayer de faire simple. Vous avez un certain nombre de marches dans le château de Chambord, dont la prouesse, je fais vite, hein. C'est une double hélice, ça veut dire que les gens peuvent descendre cet escalier, les courtisans, sans se voir, sans se croiser. Ils se voient, mais ils ne se croisent pas.
Alors, allez-vous l'énigme là-dedans ?
Il y a 146 marches, et si on multiplie ce 146 par le nombre, qui est le nombre clé de la structure de l'ADN, donc de nos constituants génétiques, on obtient 1533. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il veut le baron avec son 1533 ?
Ah, vous vous appelez le baron.
Oui, oui, oui.
C'est comme Haussmann, comme Haussmann, vous êtes bombardé baron.
C'est dans mes moments de modestie. Voilà. Et donc, 1533, c'est même pas la date de la construction de l'escalier, ça serait trop simple.
Oui.
En réalité, 1533, c'est une inscription que De Vinci a fait mettre là. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est que 420 ans plus tard qu'on découvre le chiffre clé de la structure de l'ADN. Donc, c'est un vrai mystère, parce qu'on se demande s'il n'en avait pas eu l'intuition. Le nombre de marches, l'hélice, et tous ceux qui ont déjà vu, même en classe de sciences naturelles, l'ADN, savent que c'est un double escalier aussi.
Voilà. Léonard de Vinci qui est arrivé en France grâce à François Ier, une très belle histoire d'amitié, d'amour, qu'on va continuer de découvrir sur RTL dans la curiosité.
Sur la période janvier-mars, vous avez une nouvelle fois fait de RTL la première radio de France.
Nous avons un nouveau sondage record ce matin pour RTL qui reste plus que jamais la première radio de France.
Et oui, vous êtes chaque jour plus de 6 600 000 à nous écouter.
Grâce à vous, RTL est la radio qui rassemble chaque jour le plus grand nombre d'auditeurs. C'est aussi la radio écoutée le plus longtemps.
RTL, première radio de France et meilleure audience depuis 10 ans.
Deux seigneurs, les comtes d'Anjou et de Blois, se font la guerre. Pour marquer leur territoire, ils font construire des châteaux forts comme Chinon ou Loches.
La curiosité est un vilain défaut.
Mais les plus beaux châteaux de la Loire datent de la Renaissance. La guerre de Cent Ans terminée, le roi et sa cour, qui se plaisent bien ici, décident de ne pas rentrer à Paris.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
On rénove d'anciens châteaux comme Blois, qui devient résidence royale. On en construit de nouveaux comme Chenonceau, qui enjambe le Cher, ou encore Az et le Rideau, bâti au milieu de l'Indre.
On est bien entre curieux sur RTL.
Et ben nous aussi, comme le roi et la reine, avec Thomas, on n'a pas envie de quitter Chaumont-sur-Loire. On va s'installer.
Faites la reine
ici.
Alors.
Hein, oui, bah, si vous voulez, je peux faire le roi. Si vous voulez, ça me gêne pas.
On peut changer, on peut s'amuser un peu.
Je peux être chevalier d'Éon.
J'ai peut-être une robe de ma garde-robe.
Ben voilà, pourquoi pas. En tout cas, on vous propose une visite des châteaux de la Loire. On en profite d'être à Chaumont-sur-Loire pour raconter cette histoire extraordinaire avec notre consultant en histoire, Pierre Baron, avec vous. On part au château Nobiliaire, donc c'est les châteaux où vivaient les proches des rois, dans le manoir du Clos Lucé, où en fait François Ier héberge Léonard de Vinci. Comment Léonard de Vinci arrive en France ? François Ier, un coup de cœur pour lui, un coup de foudre ?
Oui, il y a une opportunité aussi, il faut dire les choses clairement. Léonard de Vinci, il est un petit peu à la ramasse en Italie, il n'a pas de mécène, il n'a pas d'argent. Et François Ier, qui a fait la guerre en Italie, trouve là l'occasion de rafler un génie absolu que toutes les cours aimeraient avoir. Donc, bah, il va s'offrir, c'est un très jeune roi, hein. Donc c'est important. La question de prestige dans la jeunesse, c'est important. Il va s'offrir un génie d'importation et un génie que tout le monde lui envie.
Il va le faire beaucoup travailler ?
Oui, il va d'abord l'installer au Clos Lucé, il va lui donner un titre qui n'est pas que ronflant et honorifique. De mémoire, c'est premier ingénieur et peintre du roi. C'est pas rien. Ingénieur, ça a un sens très noble. Ça veut dire que tout ce qui est conçu pour François Ier, à commencer par les armes de guerre, doit passer par Léonard de Vinci.
Dans ce château, dans ce manoir du Clos Lucé, il y a une galerie souterraine. À quoi servait-elle, Pierre Baron ?
À ce que le roi vienne voir Léonard de Vinci en toute discrétion, sans que personne d'autre le sache.
Et elle a beaucoup servi ?
Tous les jours. Il venait écouter De Vinci pendant des heures, il s'asseyait et il écoutait. Et il avait là probablement un témoignage exceptionnel de l'homme qui avait, comme vous savez tous, inventé l'hélicoptère avant tout le monde, le sous-marin, tout y quanti. Alors je vous rassure, François Ier n'avait pas de sous-marin, mais en ce qui concerne les armes de guerre, la philosophie, la peinture, c'était un maître. Et François Ier, tout jeune roi qu'il était, a eu probablement le meilleur professeur d'Europe et du monde, sans doute.
C'était un ingénieur militaire aussi, Léonard de Vinci, on peut dire ça de lui ?
Eh bien, figurez-vous que oui, c'est un ingénieur militaire, et en plus, c'était une activité qui lui rapportait pas mal d'argent, comme la peinture. Il se produisait, Léonard de Vinci, il était grassement payé pour faire ça.
Il faisait des conférences un peu comme les politiques, à la retraite ?
Enfin, à la retraite et les politiques, vous savez, c'est relatif comme idée.
C'est pas faux, c'est pas faux.
Il y a les dernières chansons qui durent 20 ans.
Mais la tournée qui n'en finit pas.
C'est la tournée qu'on a.
Donc il se faisait grassement payer, Léonard.
Voilà, il se faisait grassement payer. Et contre monnaie sonnante et trébuchante, il venait dans les cours et il produisait des décors. Il montrait des décors qu'il avait conçus ou des engins de guerre pour distraire les courtisans et les courtisanes. Voilà. Et ça lui rapportait beaucoup d'argent.
Et ce passage secret, cette galerie la secrète que vous évoquiez, est-ce qu'aujourd'hui on peut encore la visiter ?
Ah non, hélas, Sidonie, ça s'est effondré il y a très longtemps. On ne peut plus y accéder. Donc la seule chose qu'on peut voir du Clos Lucé, c'est les quelques premières marches de la galerie, mais elle a gardé tout son mystère, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans.
Heureusement avec vous Pierre Baron, et dans la curiosité sur RTL tous les jours, on a plein de secrets, même si on ne peut pas se déplacer. Il y en a notamment au château de Chenonceau, qui est l'un des châteaux les plus visités de France.
Ah oui, de loin, c'est un des plus populaires. Je dirais que d'abord à Chenonceau, on a les secrets d'alcôve.
Ah, racontez-nous.
Si vous avez à Chenonceau, il y a une galerie.
On ne peut pas passer à côté, là, il faut raconter.
C'est Sidonie tout de suite. Avant.
Alors, moi aussi, hein, et tous, hein, franchement, si on est très honnête. Là, le public qui est tout
pris. Oui, mais ils n'ont rien, le public.
À Chaumont, là, tout le monde écoute. Là, des secrets d'alcôve, c'est parti, Pierre Baron.
Alors, ceux qui ont en tête l'image du château savent qu'il y a une grande galerie qui surplombe le Cher.
Oui.
Et donc, dans cette galerie, lorsqu'elle a été inaugurée, Catherine Médicis a voulu faire une grande fête. Pour célébrer ça, c'est ce qu'on a appelé le bal des seins nus. Ce qui me fait dire qu'il y avait de la belle chair sur le Cher, si vous voulez.
Très joli.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez eu donc des dizaines de très jolies femmes qui étaient à moitié nues et qui se promenaient dans cette galerie pour l'inauguration.
Très sympa, il n'y avait pas d'hommes à cette soirée.
Si. Oh là là, oh là.
C'est pas le service.
Mais n'étaient pas sans culotte, bien sûr.
Ils se rinçaient l'œil allègrement, même sur le Cher.
Si vous voulez. Ça change jamais.
Des secrets de beauté à Chenonceau, et notamment. On y découvre la recette de l'éternelle jouvence. Vous auriez pu partager avec nous avant, Pierre Baron ?
C'est plus féminin que masculin. Parce
moi,
que
j'en
c'est
veux bien du secret de l'éternelle jouvence.
Non, mais attendez, pas fini. C'est parce qu'en fait, c'est la favorite du roi. C'est Diane de Poitiers qui descendait un petit escalier quand on est à Chenonceau, qui descend sur le fleuve et elle se baignait régulièrement là. L'eau est totalement glaciale. C'était pour raffermir ses chairs. Et elle en avait besoin parce que, d'abord, c'est l'éternel féminin, mais elle avait quand même un amant, le roi, qui avait quand même 20 ans de moins qu'elle. Voilà. Je ne ferai pas d'allusion à l'actualité récente, n'est-ce pas ? Voilà.
Effectivement, c'est mieux comme ça. Parmi ces châteaux de la Loire, on a visité celui de Chaumont-sur-Loire ce matin. Il est magnifique, venez le voir. Il y a la visite des jardins qui évidemment vaut le détour, mais il y a aussi ce château. Et puis il y en a un qui nous ramène à l'univers de la bande dessinée. Si je vous dis de 7 à 77 ans, vous me répondez
Tintin.
Eh bien on va visiter le château de Tintin. A tout de suite sur RTL.
Curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
C'est la curiosité sur RTL. Jusqu'à 15h, nous sommes ensemble, en public, en direct, du Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire. On a un beau public très attentif et passionné. On a posé notre studio vraiment au cœur de ce domaine absolument magnifique. Et on en profite pour raconter l'histoire de ces châteaux de la Loire. On vient de visiter avec notre consultant en histoire, Pierre Baron, Chenonceau, Blois, le Clos Lucé. On a visité évidemment Chaumont-sur-Loire. On a croisé Catherine de Médicis, Diane de Poitiers, François Ier, Léonard de Vinci. Et là, Pierre Baron, vous nous proposez de croiser Tintin.
Qu'est-ce
on moque un
là
peu nous là, non ?
Qu'est-ce qu'il
non,
fait
non,
là, Tintin
non, je ne me moque pas, non, pas du tout, pas du tout. En fait, le propriétaire de Cheverny, c'est un aristocrate qui possède ce château depuis sa famille. Hein. C'est la même famille qui possède ce château depuis 6 siècles. Il s'appelle... ça va, j'ai un peu de temps pour dire le nom. Le marquis Charles-Antoine de Vibray.
Oh, vous n'avez pas du tout dire.
Ah voilà, non, j'ai
la version, c'est la version courte. Hein.
C'est son surnom.
Je voulais couper au montage, celui-là. Et en fait, il a commencé à devenir tintinophile, enfin, red dingue de Tintin, en lisant les albums de Tintin quand il était gosse. Et il a grandi dans ce château, qui est son château. Et puis tout d'un coup, il s'est aperçu quand même qu'il y avait une énorme ressemblance. Ça se ressemblait comme deux gouttes d'eau à ce qu'on voyait dans les albums de Tintin. Et notamment à un château que tous les gens qui ont lu Tintin connaissent, qui est celui de Moulinsart.
Moulinsart, bien
sûr.
Et
le château qui accueille Nestor en livrée et le capitaine Haddock. Ouais.
Et comment Cheverny, puisqu'on parle de Cheverny, a servi de modèle à Hergé ?
parce que Hergé travaillait énormément, quelles que soient les aventures de Tintin. Hergé était quelqu'un qui travaillait sur une grosse, grosse documentation. Donc on pense qu'il a dû compulser des dépliants, des guides touristiques, et il est tombé sur les photos du château. Et c'est ça qui l'a inspiré pour Molinsart, en fait.
Merci beaucoup Pierre Baron, il y a encore mille secrets évidemment à raconter sur ces châteaux. La Loire, on en a choisi quelques-uns et puis on vous retrouve évidemment très bientôt dans le studio de la Curiosité pour d'autres histoires d'histoire.
Vous écoutez RTL.